Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Comme chaque semaine, on ne brise pas la chaîne, même pendant cette période de vacances où je prends encore quelques jours du côté de la Loire-Atlantique pour bien recharger les batteries avant la rentrée qui se profile là. Là, ça touche à sa fin, mais je savoure encore ces derniers moments et puis je serai ravi d'échanger avec vous sur les épisodes déjà sortis, d'avoir vos retours, votre ressenti. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, que ce soit sur les réseaux, Facebook, Instagram ou sur les différentes plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres encore. Alors, savez-vous comment mener de front une carrière de sportif de haut niveau, d'endosser la casquette d'organisateur d'événements, mais aussi de chef d'entreprise, de consultant et de coach? Ce sont les questions posées dans cet épisode à Antoine De Wilde que j'ai eu le plaisir d'accueillir sur cet épisode du podcast. J'ai eu la chance de rencontrer Antoine en 2016 lors des 20 km de Paris et nous nous sommes retrouvés à l'occasion des foulées du Gois du côté de Noirmoutier en juin dernier. Antoine a accepté l'invitation et quelques jours après cette course, nous avons pu procéder à l'enregistrement. Athlète de haut niveau, Antoine a remporté plusieurs titres de champion de France de cross, mais aussi de 3000 mètres steeple. Vainqueur à 4 reprises des foulées du Gois, ce passionné est à l'aise sur n'importe quel format de course. C'est la passion qui l'anime et qui coule dans ses veines. De son envie de transmettre et de faire vivre la région de la Nièvre où il habite, il est l'organisateur du marathon de Nevers et fondateur du magasin La French Run. Dans cette boutique consacrée au running, au sport et au fitness, Antoine s'attache à promouvoir une gamme de produits avec un fort accent made in France. Un grand merci Antoine d'avoir trouvé dans ton emploi du temps très chargé de chef d'entreprise multicasquette quelques instants pour échanger sur ton parcours, sur tes projets actuels et futurs. Un grand merci également pour ta disponibilité et ton accessibilité. Alors moi je vous laisse en compagnie d'Antoine De Wilde, entrepreneur qui vibre pour le running. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Antoine, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, on s'est croisé il y a quelques jours donc sur les foulées du Gois. Comment vas-tu après cette course contre vents et marées?
Bonjour Sébastien, écoute, tout va bien, bien récupéré de cette course qui est toujours exceptionnelle hein, pour avoir le privilège d'y participer. Voilà, retour sur terre entre guillemets puisque on part de Lille et on arrive sur le continent, donc voilà, ça s'est bien passé et retour à la vie normale où là je te parle depuis Nevers.
Alors, on va revenir sur ces multiples casquettes que tu endosses donc aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter façon un petit peu état civil, nous dire d'où tu viens, qui tu es, avant de basculer sur ton profil de sportif et comment la course à pied est entrée dans ta vie.
Moi, je m'appelle Antoine De Wilde, j'ai 37 ans, j'habite à Nevers, dans la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté. Je suis athlète, un petit peu moins aujourd'hui, et un petit peu plus donc chef d'entreprise où j'ai créé la société La French Run. On sera amené à en parler là sur ce podcast. Et voilà, je suis toujours évidemment un passionné de running et de toute cette communauté qui l'entoure. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'intégralité de mes activités professionnelles, mais aussi physiques, sont tournées autour de cette passion.
Depuis ta plus tendre enfance, la course à pied s'est imposée à toi comme une évidence ou pas?
Mais pas du tout, c'est très contradictoire. Moi, j'étais un petit peu touche à tout. J'ai fait aussi notamment je coupe un petit peu parce que le magasin est encore ouvert, donc voilà, on est un peu sur deux domaines en même temps. Non, pas du tout la course à pied. Moi, j'étais un peu touche à tout, j'ai fait un peu de foot. J'ai fait un peu de karaté parce que j'adorais Jean-Claude Van Damme quand j'étais petit. J'ai fait du tennis de table, voilà. Et la course à pied est arrivée vraiment par hasard. Et c'est assez paradoxal ce que je veux dire, c'est que je suis pas un passionné de l'activité en elle-même. C'est-à-dire moi, si on me dit pendant 2 mois tu cours pas, ça va pas du tout me manquer. Chez moi, il n'y a pas de connotation de course à pied, à part évidemment d'innombrables paires de baskets. Mais sinon, voilà, je ne suis pas abonné à des magazines, je ne suis pas plus passionné que ça. C'est l'environnement qui me passionne, c'est les rencontres avec les gens, c'est tout ce qu'on peut découvrir en courant. Et évidemment, c'est ce côté un peu échappatoire quand on court, quand on ressent son corps, quand on ressent la nature, cette sensation de liberté. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui me passionne plus et c'est vraiment voilà, une introspection un peu quotidienne.
Le karaté, c'est que tu n'arrivais peut-être pas à faire le grand écart, non ?
J'y arrivais pas, j'y arrive toujours pas du tout. Donc, j'ai vite abandonné en prenant conscience très jeune que entre la fiction et la réalité, il y avait un grand écart sans mauvais jeu de mots. Et voilà, mais ça m'a permis de tester un peu ce que j'avais envie. Et puis voilà, j'ai aussi fait un peu de foot. Alors, j'étais pas hyper bon au foot. Du coup, j'allais souvent soit sur le banc, soit au gardien de but. Donc voilà, j'ai vite senti que je pouvais courir, mais sans ballon. Et du coup, je me suis orienté vraiment de façon assez très hasardeuse vers la course à pied. Puis voilà, ce jeu un peu de vitesse et d'endurance, ça m'a plu. C'était aussi un exercice individuel. Voilà, j'ai eu la chance aussi de tomber dans un club et avec des formateurs, dont un, je vais citer, Jean-Luc Cotin, qui a été mon premier entraîneur, qui m'a amené progressivement à la course à pied, mais à tout paramètre ludique. Quand on est jeune, c'est important. Donc, j'ai jamais eu une overdose de cette pratique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même 20 ans après, 25 ans après même, je suis toujours en activité puisque je sature pas. Et ça, il faut rendre voilà, à César. Il y a des bons formateurs en France dans les clubs.
Tu te souviens de ta toute première course ?
Ouais, je m'en souviens bien. Ouais. C'était un dimanche midi. On venait de faire un repas de famille avec mes parents et on est parti se promener après le repas. Et il y avait une course intramuros qui était au bord de Loire. Donc, c'était vraiment c'était à côté de chez moi. Et là, il y avait une petite course d'organiser. Moi, j'ai voulu y participer, mais plus pour m'amuser et parce qu'on était avec de la famille. Donc, j'étais en gros en mocassin et puis short, puis en Bermuda. Et ma catégorie d'âge était passée, donc j'ai couru dans celle au-dessus et j'ai gagné la course. Alors, on n'était pas énormément, hein, mais voilà, le fait d'avoir une petite coupe, je me souviens, ça m'avait marqué et mes parents tenaient une brasserie à l'époque. Donc, ils avaient exposé cette petite coupe dans le bar et du jour au lendemain, il y a eu une reconnaissance quasi instantanée des clients qui m'ont encouragé à continuer, qui m'ont félicité. Et voilà, ça m'a vraiment, j'ai senti voilà vraiment quelque chose de bien qui était réalisé. Et du coup, j'ai souhaité continuer. Je me suis inscrit dans un club et puis voilà, je me suis amusé. J'ai continué à m'amuser de cette façon.
Club avec lequel tu es toujours licencié. Tu es fidèle depuis de très très nombreuses années.
Ouais, depuis plus de 25 ans, j'ai fait un petit passage éclair en junior par La Roche-sur-Yon. Ça fait 25 ans que je suis licencié à Nevers, dans le même club, le même stade, la même ville. C'est des choses que j'aime bien. Voilà, c'est mes repères. Hein. J'aime beaucoup mon club, même si évidemment j'ai un peu moins d'entraînement qu'à une certaine époque. J'aime ma ville. Voilà, je suis assez fidèle à ce que je touche et ce que j'aime et je change rarement. Donc voilà, je suis très bien comme ça.
Alors, comment tu as évolué de cette petite course du dimanche en mocassin à ces nombreuses victoires, ces nombreux titres, ces quatre trophées au foulé du Gois ? Alors après, tu me diras quelles sont tes plus belles récompenses, tes plus belles courses. Mais comment tu as basculé sur le statut d'athlète professionnel ?
Ça s'est fait vraiment progressivement. Je pense que quand on est jeune et quand on démarre, en tout cas pour moi, à cette discipline, on se dit pas on va être champion de France ou autre. Ça s'est fait vraiment progressivement avec des entraînements crescendo au fur et à mesure de l'âge. Et puis, au début, on touche à tout. On fait un peu de longueur, de saut en hauteur, etc. Puis j'ai rapidement été tourné vers l'endurance. J'ai commencé à être champion départemental, puis l'année d'après régional, puis champion académique avec le collège, etc. Et c'est ça qui m'a donné vraiment le goût un peu de la compétition et d'essayer de gravir à chaque fois l'échelon supérieur. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu timide, j'avais un peu de mal même à m'exprimer avec avec mes copains de classe ou dans une classe au plus grand nombre. Je bégayais même. Ça peut s'entendre encore aujourd'hui, même si je pense que je m'exprime normalement. Mais voilà. Et du coup, la course à pied a été aussi un échappatoire et un moyen de reconnaissance extérieure. Donc du coup, voilà, ça m'a permis de continuer, de me faire plaisir dans cette discipline et surtout de me fixer des challenges vite et jeune. Et voilà. Et après, il y a eu les championnats de France. Puis après, on est dans le truc, quoi. On se compare un petit peu par rapport aux autres de sa catégorie d'âge. On fait des stages régionaux, stages nationaux. Et voilà, ça vient de fil en aiguille. Il ne faut pas être pressé, il faut être patient. Et puis voilà, il faut aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est important.
Alors, de ces titres en cross-country, 3000 mètres steeple, bah, tu étais aux côtés d'un médaillé olympique, Mayedine Mekissi. Est-ce qu'il y a un regret de ne pas avoir pris le bon virage, ou est-ce que tu dis finalement c'est à cet âge-là, on peut finalement aller chercher un petit peu tout le monde sans qu'il y ait cette hiérarchie qui se met en place?
Alors, moi, j'ai aucun regret hein, dans ma vie en général. Jamais personne m'a forcé à faire quelque chose. C'est des choix que j'ai fait seul. On peut avoir des remords sur certaines situations, mais je ne suis vraiment pas une personne qui nourrit des regrets. Moi, j'ai vraiment fait ce qui me plaisait. Après, effectivement, j'ai battu Mayedine, qui fait vice-champion de France. Donc, quand moi, je suis champion de France junior, je crois que quatrième dans cette même course, ça doit être Johan Durand, qui fait quatre. Il y avait aussi un petit peu plus loin derrière Benjamin Malati, etc. Donc, c'est vraiment des coureurs qu'on a retrouvés ensuite par la suite sur marathon et dans différentes catégories. Non, parce que je pense qu'en cadet junior, c'est encore un petit peu… tout le monde peut être champion de France, entre guillemets. Donc, je ne vais pas dire que c'est un coup de chance, parce que derrière, j'ai confirmé aussi ce résultat. J'ai pu aller au championnat du monde et au championnat d'Europe. Le seul regret que je peux avoir, c'est évidemment physique, où j'ai été freiné pendant très longtemps par des tendons d'Achille douloureux. Voilà ce qui m'a freiné, je pense, dans ma progression et dans ce plaisir que j'avais, notamment sur 3000 steeples en cross, qui sont mes distances, je pense, de prédilection. Ces deux disciplines, en plus, se rapprochent assez fortement. Donc, même le gua, hein, évidemment, voilà, il faut monter les genoux. Il n'y a pas forcément de… C'est assez instinctif comme course. On se retrouve un petit peu comme on est en cross-country. Donc, non, j'ai vraiment pas de regrets. Et c'est des gens encore que je côtoie aujourd'hui. Et forcément, c'est super de se dire triple médaillé olympique pour Mayedine, qui a une carrière exceptionnelle. Maintenant, ça serait présomptueux de ma part de me dire je l'ai battu une fois, j'aurais pu être triple médaillé olympique. Pas du tout. Voilà, pas du tout. C'est une course. Tant mieux pour moi ce jour-là. Ça a orienté ma carrière d'une certaine façon. Et voilà, on a tous des chemins différents, que ce soit Johan, Benjamin, etc., Denis Maillot, pour citer qu'eux, qui faisaient partie, évidemment, mais même Thibaut Naël, sur cette génération-là.
Est-ce que ta grande taille a été un atout sur ces courses où il faut vraiment envoyer un petit peu du bois et puis se sortir d'un guépier en crosse ou comme sur les foulées du gua, où là, il faut passer par-dessus les vagues?
Je pense qu'en cross, ça peut être un atout sur un terrain un petit peu gras. Maintenant, en termes général, je suis pas un coureur hyper rapide. Forcément, quand on est un peu un grand échalas, il faut mettre de la fréquence dans son amplitude. Donc, c'est difficile. Donc, je suis pas sûr que ça soit un avantage quand on veut aller vite sur du demi-fond, le fait d'être grand. Ça a eu son avantage forcément en cross-country. Sur 3000 steeple, ça, c'est une certitude. Et puis sur les foulées du bois, ça voilà, c'est très mathématique. Hein. Plus on est grand, plus l'eau arrive évidemment un peu moins vite que les autres sur les genoux. Donc voilà, ça c'est. Je pense qu'on a un peu plus de marge entre guillemets qu'une personne qui fait 1m50.
Donc si on veut se mettre à l'abri, on se cale derrière toi, Antoine, et puis on est protégé du vent.
On pourrait, même si on n'a pas forcément la même aspiration qu'au vélo, mais effectivement, s'il y a de grosses rafales, ça peut aider. Après, je suis pas très costaud au niveau des épaules, hein, donc faut vraiment se mettre dans la lignée de la colonne vertébrale.
Alors, de ta carrière, de ces plus de 25 ans de course à pied, qu'est-ce que tu retiendrais? Quelle serait la course qui t'a donné le plus de satisfaction, dont tu es le plus fier aujourd'hui, même si on peut les balayer, mais il y en a beaucoup?
Ah, il y en a beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup de courses et surtout de faire les courses qui me plaisaient, sans qu'on m'en impose. Et ça, je remercierai toujours les personnes qui m'ont entouré, mes partenaires, etc. Ça, j'ai pu vraiment toucher à tout. Et ça, c'est super aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'expérience sur tout un tas de terrains. Après, c'est difficile d'en choisir une. Je dirais peut-être forcément le titre de champion de France parce que ça a été une course qui a été catalyseur vraiment de la suite de ma carrière. Ça a été un élément voilà déclencheur. Les Foulées du Gois pour moi c'est une course exceptionnelle. Quand on part de Lille et qu'on est sur ce passage avec la marée qui monte, le courant qui nous balaye sur la gauche, le vent, le fait qu'on voit plus la route. Ce combat un peu d'homme à homme, hein, ce bruit de foulée dans les vagues et tout, c'est pour moi c'est une course exceptionnelle. Ouais, c'est vraiment c'est un environnement voilà qui est sanctuarisé où il y a un vrai ancrage là positif quand je vais là-bas. Donc si je devais en retenir qu'une, c'est très difficile, mais je pense que ce serait celle-là.
Comment tu en es venu à courir ces foulées du Gois? Tu as une affection pour l'île, pour le passage, ou c'est vraiment ce type de course un peu hors norme qu'on ne retrouve pas ailleurs en France?
Ça a été un petit peu un petit coup de chance puisqu'au début j'étais sur liste d'attente. C'est Philippe Raymond qui avait contacté l'organisateur en disant tiens, est-ce qu'il peut courir? Donc au début j'étais pas pris. Et puis il y a eu quelques athlètes qui n'ont pas pu participer. Donc au dernier moment on m'a appelé. Je me souviens j'avais le dossard 25 sur 30. Et Philippe avait dit, alors je sais pas si c'est surtout de la rigolade ou s'il était sérieux, avait dit à l'organisateur mais tu verras, je t'envoie le futur vainqueur. Et puis la première année, je gagne avec quasiment 1 minute 30 ou 40 d'avance. Il y avait énormément d'eau ce jour-là. Je me souviens, on avait mis presque 20 minutes à franchir le passage. La taille m'avait beaucoup aidé. Le fait d'être rapide à cette époque, un petit peu sur 1500 et 5000, m'avait aussi aidé. Et du coup, je fais un truc en même temps. Tac. Et du coup, voilà, c'est. Derrière, d'être vainqueur dès la première édition, ça m'a ouvert les portes sur les autres éditions. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai 4 victoires. C'est super. C'est vraiment moi une course qui compte. Et même quand je passe là-bas, quand je suis en vacances ou autre, un jogger sur deux qui est amené à me parler de course à pied me parle du Gois ou a vu des images, voilà, sur des reportages ou autres. Donc voilà, forcément, ça alimente aussi. Et puis c'est une course unique au monde. C'est une course unique au monde.
C'est ce qui m'a donné envie, hein. Quand je t'ai vu sur la chaîne L'équipe braver les vagues, bah, je me suis dit, pour une prochaine édition, même si je fais pas moi la course des As, mais au moins de prendre part à cette manifestation qui débute dès 13h jusqu'à plus de 18h avec une foule immense et ses encouragements et de vous voir partir, c'était vraiment magique de voir ces coureurs donc franchir le passage. Donc, merci, hein, de nous faire vivre ces émotions. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce qui t'anime également au-delà de la simple performance sportive.
Ah oui, voilà, moi, c'est vraiment d'être au contact des gens, de vivre des expériences assez exceptionnelles comme c'est, enfin, comme le Gois ou alors des expériences un peu plus longues et peut-être même un peu plus rudimentaires comme la France en courant où ça a été une expérience exceptionnelle. Voilà, il y a tout un tas de courses comme ça que je retiens et qui ont façonné vraiment la carrière que j'ai aujourd'hui et qui me laissent des souvenirs exceptionnels et surtout une diversité de. Je reprends le mot expérience, mais c'est vraiment réel. Derrière, quand on peut échanger avec les personnes, on a pu vraiment avoir une vision et une sensation voilà, sur tout un tas de domaines. Et ça, je pense que c'est important. C'est vraiment important.
C'est ce qui t'a conduit aujourd'hui à basculer de l'autre côté, alors tout en conservant le statut d'athlète, hein, parce que tu es encore très performant, mais de pouvoir à la fois coacher, à la fois être organisateur d'événements. Ça, c'est cette volonté de transmettre à d'autres personnes, peut-être d'un niveau moins élevé, mais dans ce nivelage que l'on peut trouver en course à pied, on a un short, on a une paire de baskets, ben, que l'on soit rapide ou moins rapide, on peut partager la même passion.
On peut partager la même passion et puis quand on a touché à tout, au moins quand on a essayé tout un tas de domaines, de disciplines ou d'expériences athlétiques, hein, que ce soit en stage ou j'ai été en Éthiopie ou autre. Effectivement, quand on échange après avec un jogger, on est capable, enfin voilà, de se mettre un petit peu à Enfin, de se mettre à sa place et justement de pouvoir lui transmettre les bons outils pour qu'ils soient épanouis et pour comprendre, entre guillemets, ce qu'ils ressent aujourd'hui. Si on fait qu'une seule discipline, ça va être plus difficile. Si on a affaire à un marathonien ou à un trailer, etc., le fait d'avoir un peu tout essayé, on est capable après, derrière, d'avoir un échange un peu plus constructif et surtout, voilà, se mettre à sa place. Et je pense que c'est hyper important en termes de coach, quand on conseille des gens, quand on organise des événements, on sait ce qui s'est fait ailleurs. On a pu aussi prendre des notes sur, sur des choses qui sont bien, des choses qui sont à améliorer. Et ça, on essaie d'être derrière, de les transférer sur les propres événements qu'on met en place. Alors, c'est pas toujours facile, hein. L'événementiel, c'est voilà, c'est un métier qui est très très difficile, mais c'est passionnant parce que voilà, c'est un peu à l'image de la préparation d'une course, hein, il y a la préparation d'un événement et ça monte crescendo sur les semaines avant jusqu'au jour J où voilà où ça explose et où autant en compétition que sur un événement, c'est toujours cette journée-là qu'on retient.
Là encore, dans ton attachement donc à la région de Nevers, c'était à cet endroit-là que tu avais envie d'organiser quelque chose d'assez, d'assez grand autour de ce marathon qui emprunte le circuit donc, de Formule 1. Pourquoi justement cette zone-là? C'est vraiment ce cœur qui vibre pour la Nièvre.
Ouais, moi, je suis un Nivernais d'adoption parce que je suis né à Versailles dans les Yvelines. J'ai grandi une dizaine d'années en région parisienne et ensuite à Nantes. Et je suis arrivé vraiment ici à l'âge de 10-12 ans sur Nevers. Et aujourd'hui, c'est ma ville. J'y habite, je travaille ici, je m'entraîne ici. J'ai mes amis, j'ai ma famille. J'ai une vraie, j'ai une vraie affection pour cette ville, pour ce patrimoine. Pour moi, c'est une ville. Ok, c'est une petite ville. C'est sûr, on a une trentaine de mille d'habitants ici. Mais pourtant, voilà, je trouve que on est. Il y a la Loire qui passe sur notre ville. Il y a un patrimoine qui est exceptionnel. Voilà, il y a un beau cadre de vie. On est quand même proche de tout. On est à 2 heures de Paris, de Lyon, etc. Moi, j'ai une vraie affection et j'ai une vraie affinité pour cette ville. Et après, ça se commande pas. Et du coup, tous les partenaires, même la municipalité qui me fait confiance depuis des années, ça a été légitime de rendre l'aide qu'on m'a apportée pour essayer de développer de l'attractivité locale et sur le territoire, donc en faisant marcher, en faisant courir les gens. Voilà, ça a été hyper important et j'ai essayé de le faire à mon niveau et en étant aussi bien entouré. Et voilà, et depuis des années, j'ai des gens qui me soutiennent et qui m'aident aussi à pouvoir faire tout ça parce que seul, on est capable vraiment de rien. Et voilà, ça contribue entre guillemets à mon petit niveau à une dynamique sportive locale. Et ça permet aussi de faire connaître Nevers, de faire connaître mon département et ma région. Donc ça, c'est super. Il y a des gens qui passent par Nevers, qui viennent visiter le magasin ou qui viennent faire le Nevers Marathon, etc. Donc voilà, si aussi on peut apporter un petit peu de touristes, c'est génial.
Donc tu te sers un petit peu de ta renommée, de ta visibilité pour dynamiser finalement cette région rurale. Je suis pas très loin, hein. Orléans, les châteaux de la Loire, on est aussi sur des petites villes. Et il y a besoin d'acteurs comme toi pour faire bouger nos centres-villes.
Ouais, j'essaye de vraiment d'optimiser ma connaissance de mon secteur et de mon milieu. Il y a des choses que je sais pas faire et que je maîtrise pas. Pour autant, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu du running, donc j'ai essayé de transférer toute ma période d'athlète. Et puis d'apprendre le métier d'organisateur d'événements et puis de consultant sportif. Et maintenant, avec l'ouverture de la boutique pour conseiller au mieux les gens, ça permet vraiment de les entraîner, de les emmener vers les événements qu'on organise et de les équiper ensuite avec la boutique. Donc, créer de créer une cohérence et une synergie sur ces trois structures. Mais voilà, c'est vraiment… C'est un sport, que moi j'apprécie et que j'essaie de maîtriser de jour en jour et j'en apprends encore, de jour en jour. Donc je trouve ça passionnant et ça reste perfectible évidemment au quotidien.
Alors la particularité de ce marathon donc à Nevers, c'est que avec les années Covid en 2021, ça a été le seul en France. Donc il y avait une grosse visibilité sur cet événement.
Il y a une grosse visibilité, ça a été aussi vraiment une grosse organisation. Cette année-là, ça a été difficile parce qu'on est face aussi à une atmosphère qui était particulière avec le Covid. On a eu la chance d'avoir le circuit de Nevers-Manicourt. Ça nous a permis de courir en vase clos. et de pouvoir organiser cet événement-là. Alors, pas non plus au forceps, hein, mais de aussi mettre en place toutes les préconisations là, de sécurité. Et ça, c'était hyper important. Et je pense que ce que je retiens aussi, c'est qu'on a reçu énormément de messages d'organisateurs où ça leur a donné aussi un souffle d'espoir en disant bah en fait on est quand même capable d'organiser et du coup on va s'accrocher pour notre édition de août 2021. Donc voilà, ça nous a aussi donné du baume au cœur et on a organisé au nom aussi de toutes les personnes qui pouvaient pas le faire. Et voilà, les 1500 coureurs ce jour-là, je pense, ont pris plaisir. Et c'était super pour Nevers et pour les personnes qui ont participé.
Alors, il y a deux autres courses que tu organises dans ta région. Est-ce que tu peux en parler et pourquoi tu as voulu les mettre en place ?
Alors, la course historique, c'est la bottine et la moustache qu'on organise depuis 10 ans maintenant. Donc, qui est une course caritative à la base contre le cancer du sein. Moi, j'ai ma maman qui a été atteinte donc, d'un triple cancer du sein. Donc, quand je me suis mis un petit peu à l'idée d'organiser un événement, j'ai souhaité que ça soit pour cette cause et contre cette maladie. Voilà, ça a été orienté pour les femmes. Et le but, c'était vraiment de démocratiser le côté élitiste de la course à pied ou le rendre accessible vraiment au plus grand nombre. Il y avait beaucoup de gens autour de moi qui aimaient bien courir, mais qui avaient peur de passer le pas d'une compétition en disant « mais non, je vais être ridicule, ils courent plus vite que moi, etc. » Donc vraiment, le but, c'était d'instaurer cette politique-là, localement parlant en tout cas. Et donc, la bottine et la moustache ont été mis en place et voilà, on est monté jusqu'à 4600 personnes qui ont participé. Donc pour une ville comme Nevers, c'était superbe, hein, c'était vraiment exceptionnel. Et derrière, voilà, il y a eu le Nevers Marathon, mais aussi la Look, qui est un événement cycliste, puisqu'on a voulu se challenger sur les événements et organiser quelque chose qui était hors running. Et donc là, c'est un événement qu'on a repris il y a 2 ans maintenant.
Donc, multi casquette. Et pour en rajouter une autre, eh bien, tu es aujourd'hui donc, le fondateur de La French Run, un magasin donc, qui est situé à Nevers avec un deuxième magasin sur Paris depuis l'été dernier. Pourquoi La French Run et qu'est-ce qu'on trouve dans tes rayons ?
Alors, La French Run, c'est un magasin spécialiste running, trail, fitness, avec tout ce qu'on peut trouver entre guillemets dans un magasin de running classique. Et on fait du multimarque et on a aussi une gamme propre à nous qui est entièrement fabriquée en France. Voilà, c'est quelque chose moi qui m'a toujours passionné. Enfin, toujours. C'est suite à un week-end lors du salon du Made in France à Paris, où j'ai vraiment été émerveillé par ce qui se faisait. Et puis voilà, je me suis renseigné progressivement sur le Made in France. Ça m'a plu. J'ai aimé voilà les valeurs de tout recentrer sur les locaux, sur le local, sur sa chaîne de distribution, etc. Et c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place ici. Et du coup, voilà, aussi créer un environnement un peu plus épuré qu'un magasin de running classique, avec la possibilité de s'équiper aussi en lifestyle. On a des pulls en mérinos, des choses pour habiller le coureur aussi après sa pratique. Donc, on a un magasin à Nevers qui est en plein centre-ville. Ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert. Et on a ouvert aussi un magasin qui a été éphémère sur Paris, donc de juillet 2021 jusqu'à fin février 2022 et qui était basé donc dans le 16e arrondissement.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme produit ? Tu as vraiment été chercher de la chaussette, du t-shirt, là, 100% Made in France. C'est circuit court pour ne plus dépendre des fournisseurs, on va dire, étrangers et un petit peu éloignés de notre pays.
Ouais, c'est sûr. Alors après, je pense qu'il ne faut pas tirer à balles réelles sur les fournisseurs étrangers hein, qui travaillent aussi très bien. Il y a un double discours hein, sur le Made in France qui est évidemment de nos jours très marketing. Le Made in France existe depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Seulement, voilà, avec l'émergence de certaines marques, effectivement, c'est devenu un petit peu à la mode. Maintenant, d'autres fabricants étrangers ne travaillent pas forcément moins bien que des fabricants français. Seulement, il y a des coûts qui sont un petit peu moindres suivant les pays, ce qui forcément impacte le prix final là pour le client. Donc, le but, c'est aussi d'essayer de mettre en place des produits de qualité, d'être raisonnable sur la quantité qu'on fabrique. Et puis, voilà, d'essayer de faire un peu moins de collections, un peu moins de coloris aussi et de cibler un petit peu plus là nos produits pour que voilà, ça puisse correspondre évidemment à nos clients, mais aussi faire des collaborations comme on a fait avec Oxitis, avec BV Sport, avec Coureurs du Dimanche. et ce qui permet d'avoir des produits de qualité en collab avec des marques françaises. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut trouver voilà, d'assez innovant dans notre espace ici, en tout cas à Nevers.
Quelle a été la difficulté avec l'arrivée du Covid ? Parce que tu t'es lancé à un moment où c'était peut-être pas le plus opportun. Vous avez réussi quand même à passer cette crise et à pouvoir faire fonctionner le magasin dans de bonnes conditions ?
En fait, nous, on ne sait pas ce qu'était le commerce avant le Covid, puisqu'on a ouvert au deuxième déconfinement. Donc, on n'a pas de point de repère comme nos homologues ici, là en centre-ville, qui peuvent avoir des magasins depuis 10-15 ans. Nous, on n'a pas ce repère-là. Donc, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu difficile. On navigue entre guillemets à vue et au jour le jour. Maintenant, le Covid, forcément, a fait du mal, hein, dans les habitudes des gens. Ça, c'est une certitude. La crise qui s'ensuit a des répercussions sur le pouvoir d'achat, forcément des runners ou autres. Donc, il faut essayer de s'adapter à ça. Il faut fidéliser un maximum notre clientèle. Il faut innover. Il faut voilà, jouer sur des tableaux sur lesquels peut-être la vente Internet ne peut pas jouer. C'est difficile. Après, est-ce qu'il y a un secteur qui n'est pas dans la difficulté aujourd'hui ? Je ne pense pas. Donc, il faut travailler, il faut faire le dos rond, il faut profiter des moments quand il y a des périodes qui sont un peu meilleures. Et il faut, voilà, il faut essayer de se réinventer un peu au quotidien quand il y a des moments qui sont un peu plus durs. Et c'est aussi pour ça qu'on a une structure un peu variée avec de l'événementiel, du coaching, une boutique. Ça permet évidemment, quand il y en a une qui est un peu plus en difficulté, que voilà, plus un peu être soutenue par l'autre. Sinon, ça pourrait être difficile. Après, on a pu, et je termine sur ça, sur la boutique, mettre en place aussi ce magasin dans le centre-ville, parce qu'on a eu un soutien de la municipalité, de l'agglomération, qui ont favorisé vraiment l'implantation de commerce, en tout cas sur Nevers et chez nous. Et ça a été vraiment un avantage, et je les en remercie, puisque si on n'a pas cette aide-là, je pense que c'est difficile aujourd'hui pour un porteur de projet de s'installer dans un centre-ville voilà, sans expérience particulière et en arrivant avec ses valises. Les valises ne sont pas pleines, hein, quand on démarre. Donc voilà, c'est vrai que ça aide et ça favorise l'implantation forcément aussi en hypercentre.
Alors, après ce magasin éphémère sur Paris, est-ce que tu ambitionnes de développer peut-être d'autres magasins, la French Run, dans des grandes villes de France, mais pas forcément Paris ?
Aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour parce que on a plus l'ambition de se stabiliser au niveau régional. Si on est amené à se développer, ça sera à l'échelle, pour l'instant, de notre région, je pense. C'est là où on a le plus de notoriété, ou aussi c'est plus facile pour nous de se déplacer. Voilà, il faut qu'on arrive aussi à trouver notre équilibre avec les produits qui fonctionnent chez nous, notre stock. On est un peu autodidacte, on a ouvert il y a un an, donc par rapport à d'autres grosses enseignes, on manque forcément un petit peu d'expérience. Et puis voilà, façonner aussi notre partie digitale avant de se relancer un peu à la conquête d'un deuxième ou d'un troisième magasin. Et puis voilà, on a les deux autres activités autour qui nous tiennent chaud aussi. Et voilà, et ça permet de aussi nous de nous diversifier. Ça fait du bien d'être un peu en boutique l'après-midi sur un événement ou le matin voilà, sur l'académie. Voilà, c'est des choses qui sont bien et qui, nous, en tout cas en interne, nous apportent un vrai équilibre.
Tu accompagnes également des chefs d'entreprise, enfin, tu fais des séminaires pour peut-être les préparer sur des événements sportifs, mais peut-être également sur ton passé de sportif et ce que tu as vécu, ce que tu as acquis comme expérience. Là encore, tu es dans la transmission.
Oui, alors c'est moi, je trouve que c'est important, et aujourd'hui le sport en entreprise doit prendre une place majeure. Le sport à l'école déjà, parce que ça doit démarrer de là, le fait d'avoir une activité physique régulière. C'est pas le but de faire des usines à champions, hein. Enfin, mais loin de là. Mais peut-être d'avoir le bon rythme et les bons automatismes déjà petits sur voilà, sur peut-être prendre un escalier au lieu d'un ascenseur, sur aller à une course peut-être en marchant, faire un petit peu voilà un petit peu de sport, un petit peu de jogging. Je pense que ça c'est important. Et en entreprise, parce que je pense que le rendement d'un salarié, l'entente entre les salariés peuvent être bien meilleur s'il y a une activité physique ludique qui peut être mise en place par l'entreprise. Ça fédère les salariés entre eux. Ça permet aussi, voilà, de se fixer un challenge, un objectif, de se dépasser. Et puis, voilà, quand on fait de l'activité physique, on se dépense. Naturellement, on doit aussi mieux s'alimenter derrière, se décharger de stress, d'une certaine pression. Les décisions qu'on prend après une activité physique sont souvent meilleures qu'avant, où on est peut-être un peu en saturation. Ça va aussi jouer sur la qualité de notre sommeil. Donc, je pense que ça a vraiment des vertus et puis des bienfaits qui sont bénéfiques. Ça, c'est une certitude, voilà, pour le salarié ou pour un groupe. Donc, c'est des choses que nous, on développe énormément, évidemment, en interne et qu'on fait, voilà, sur des entreprises de la région. Je prends la dernière en date qui était l'entreprise Bouchard Père et Fils à Beaune, où on a préparé un groupe de 20-25 personnes à faire le 10 km et le semi-marathon. Et entre l'ambiance du groupe à la première séance et le jour J, il y a vraiment voilà, une vraie évolution et c'est palpable. Et ça, en tout cas, c'est super. En tout cas, moi, je fais ce métier-là pour ces expériences humaines-là.
Est-ce que tu as l'impression de travailler au final? Parce que tu as toujours cette passion qui rythme ton quotidien. Donc, c'est une chance peut-être aussi.
C'est une bonne question. Oui, parce qu'il y a des moments où je suis franchement KO et je me dis c'est dur. Entre les coachings qui démarrent très, très tôt le matin, la journée en continu en boutique et parfois voilà, de l'administratif ou du coaching le soir, les journées sont extrêmement longues. Mais objectivement, non, parce que je fais quelque chose qui me plaît. Je pense que j'ai une chance de faire quelque chose que j'ai choisi. Il y a des gens aujourd'hui dans la vie de tous les jours, ils ont un métier qu'ils n'ont pas forcément choisi. Ils sont contraints ou ils y vont par défaut. Moi, j'ai cette chance-là de faire ce que j'aime et de décider ce que j'ai envie de faire, même si j'ai des contraintes, évidemment, au quotidien, j'ai du stress, etc. Mais objectivement, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, non, c'est énergivore comme métier, mais c'est plaisant et je suis vraiment aujourd'hui, je suis heureux de ce que je fais, ouais, évidemment.
Donc, tu arrives quand même à aller courir un petit peu. Parfois, tu vas solutionner des problèmes en courant, mais le plaisir est toujours là.
Le plaisir est toujours là. Je cours évidemment moins qu'avant. Maintenant, je cours, c'est important déjà pour garder la ligne. Voilà, moi, je veux garder la ligne et avoir un corps d'athlète le plus longtemps possible. Je prends toujours évidemment beaucoup de plaisir à courir. Quand je vais courir à Jeun, en forêt, à la levée du jour, c'est toujours des moments qui sont géniaux où on est en connexion avec la nature et avec son corps. Et on démarre jamais mieux une journée que quand on a fait, voilà, ce petit jogging matinal. Et puis voilà, je suis toujours un compétiteur dans l'âme, donc j'ai aussi ce besoin de me challenger, de me fixer des objectifs, même si je sais que fur et à mesure, l'âge ne joue pas en ma faveur et mon quotidien encore moins. Je peux plus faire de sieste comme à la grande époque. Ça fait 5-6 ans que j'ai pas été chez le kiné. Voilà, c'est des choses. Mais pourtant, voilà, j'ai cette âme de compétiteur qui est toujours en moi et qui me permet de me représenter à des compétitions et en tout cas de garder vraiment cette envie de courir et puis de me fixer des objectifs à court et moyen terme.
Est-ce que c'est ce qui t'a manqué sur le goût, justement, cette charge mentale de chef d'entreprise pour te dépasser? Peut-être te préparer mieux que les fois précédentes.
C'est certain. Après, moi, je suis pas le genre d'athlète qui trouve des excuses ou qui se décharge sur « je savais que j'étais moins préparé cette année-là ». Il y a 3 ans, avant le Covid, je gagne le goût avec 4 secondes d'avance. C'est très faible. Je gagne, mais c'est la distance est quand même assez, assez proche avec le second. Donc, je savais que j'étais moins préparé, que j'avais eu 1 ou 2 ans très difficiles avec le travail et que physiquement parlant, j'avais un peu moins d'armes qu'il y a 3-4 ans. J'avais conscience de ça. Maintenant, je me suis dit, voilà, le Gua, c'est une course particulière. Je me suis déjà présenté au Gua très, très fort et pourtant ne pas gagner et des moments étant moins préparé et pourtant sortir vainqueur. Donc, voilà, j'ai voulu y aller en ayant connaissance un petit peu des risques. Et puis, voilà, j'ai donné le maximum. Je me suis dépassé et je suis à ma place. Et voilà, devant, c'était fort. Jonathan Bio a fait une très belle course. Il a extrêmement bien géré. Il mérite largement sa victoire. Et moi, j'étais à mon niveau ce jour-là. Donc, aucun regret. Je me suis dépassé. Et voilà, et je reviendrai évidemment l'année prochaine.
Même les féminines, hein, ont fait vraiment de gros, gros exploits.
très belles courses parce qu'elles sont parties avec 2 minutes d'avance et même le premier homme ne rattrape pas la première féminine. C'est un petit gabarit de poche, hein, la première femme. Donc, quand on connaît la vitesse de montée d'eau, ça a dû être d'autant plus difficile. Donc, non. Et c'est bien qu'ils aient mis des femmes sur cet événement-là. Ils ont aussi trouvé cette année le juste milieu entre la montée d'eau, le départ des femmes et des hommes. Et moi, je trouve que c'est super qu'il y ait la parité sur un événement sportif comme ça. Et elles ont prouvé encore plus qu'elles avaient largement leur place. Et moi, je trouve que c'est super.
Alors, tu portais justement, Antoine, une paire de chaussures Made in France de la marque Vitz. Est-ce que tu as participé au développement de cette paire que tu vends donc dans ton magasin? Et qu'est-ce que tu retrouves dans des standards finalement de chaussures que tu as déjà pu porter chez Vitz?
Alors, moi, j'ai reçu les premières chaussures Vitz avant qu'elles sortent il y a quelques mois, quelques années maintenant. Donc, il y en a une que j'ai poussée même très, très loin en kilométrage. Et ça me permet de faire des feedbacks en disant voilà là où ça s'use un peu plus, mais voilà mon ressenti sur le taillant, sur la tige. C'est des choses que j'affectionne beaucoup parce qu'en plus moi j'en vends en boutique, donc des chaussures on en voit passer quand même toute la journée, des profils de coureurs aussi, donc ça permet je pense d'avoir aussi ce côté un petit peu critique, mais qui peut favoriser la marque aussi, voilà, à corriger un petit peu leurs différents modèles. Moi, je trouve ça super que BV Sport ait redonné un second souffle à Vitz, que ça soit voilà, une paire de running 100% Made in France, qui est perfectible. Hein, la marque en a conscience. Quand on voit la V2 déjà qui est sortie là, avec la transition en knit, c'est vraiment une super paire par rapport à ce qui est sorti il y a un an et demi. Et je pense que c'est chouette et il faut continuer à aller dans ce sens-là. Et c'est... La France, BV Sport, Saint-Etienne, Cholet, puisqu'elles sont fabriquées là-bas. Je pense que ça peut être une marque qui compte déjà, mais qui va compter encore plus dans l'environnement du running français et international dans les années qui viennent.
Alors, est-ce que tu portes toujours des Mizuno? Parce que c'est sur ce modèle-là, enfin sur cette marque-là que je t'ai découvert. Ou Saucony, parce que je pense que Benoît doit vouloir t'en proposer quelques paires quand il vient te voir du côté de Nevers.
Alors moi, j'ai couru déjà avec Benoît sous Saucony, puisqu'il était mon team manager quand moi j'étais à un moment donné chez Mizuno. Je suis resté 8 ans, donc non, objectivement, je cours plus en Mizuno. Je cours en Vitz maintenant depuis quasiment 2 ans. Je prends beaucoup de plaisir en plus, vraiment à courir avec cette marque. Après, c'est important aussi d'essayer différents modèles, différents chaussons. Les différentes technologies, je pense aussi à la plaque carbone, etc., pour aussi avoir dans la même lignée que l'expérience, que ce soit en cross-country, sur piste, en trail, mais aussi en chaussures, pour avoir aussi son propre avis et pouvoir me conseiller évidemment un peu plus la runner. Mais non, pas en Saucony, malheureusement, il n'a pas encore réussi à me faire chausser une paire de Saucony, mais c'est toujours un plaisir de voir Benoît ici, puisqu'on a couru ensemble et maintenant, voilà, on travaille ensemble. Comme Gilles Segri de chez Oka, etc. Voilà, ça nous permet de nous remémorer, évidemment, les années antérieures.
Alors Antoine, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui passe la porte de ton magasin et qui souhaite se mettre à courir? Ce serait quoi tes recommandations avec ton regard de chef d'entreprise, de coach et d'athlète professionnel?
Alors déjà, il faut qu'il ait envie de s'y mettre, qu'il ait envie de courir. Ça, c'est hyper important. Il faut qu'il privilégie d'entrée une paire de running. C'est le plus important. Qu'il court avec des chaussettes coton, un short, un bermuda et un polo, à la limite, objectivement, c'est pas très grave. Par contre, il faut qu'il soit bien chaussé parce que c'est ce qui va permettre déjà qu'il démarre bien, qu'il évite les blessures et qu'il soit vraiment confortable dans sa paire de chaussures, qu'il ait une paire adaptée à son profil, à sa posture. Et évidemment sur le terrain sur lequel il va courir, qu'il y aille progressivement. C'est important qu'il ne brûle pas les étapes. Il n'y a pas de honte à démarrer en alternant la marche et la course. Au contraire, il ne faut pas qu'il soit dégoûté. On a beaucoup de gens qui démarrent et qui ont un parcours en tête, qui essayent de le faire le plus vite possible et au bout de 3-4 entraînements qui sont à plat, parce qu'évidemment c'est difficile et il faut que le corps puisse vraiment s'adapter à une pratique qui soit régulière et progressive. C'est le conseil que je dois lui donner, évidemment, qu'il se rapproche d'un groupe d'entraînement ou d'un club, puisqu'il aura de bons conseils et puis il y aura une émulation qui va se mettre en place. Donc voilà, c'est les petits conseils que je peux lui dire. Puis qu'il varie les terrains. la course à pied, c'est la liberté. Donc, il peut courir dans la rue, en forêt, ou au bord d'un fleuve. Ça, c'est quand même super pour notre discipline.
Alors, Antoine, quelle sera ton actualité pour les semaines et les mois à venir ?
Courir un peu cet été. Le goût me fait me remettre un petit peu aussi à l'entraînement parce que j'ai subi un peu cette course, donc c'est difficile déjà à accepter puis à encaisser. Donc le but, c'est d'être un peu moins essoufflé et un peu moins chargé au niveau des jambes quand on court ou quand on est à une intensité assez haute. Et puis voilà, préparer évidemment les événements futurs qu'on organise avec la French Run, avec la Loup Gravel qui aura lieu en septembre. La croquette, on organise un canicross solidaire aussi qui aura lieu en octobre, et évidemment le Nevers Marathon by Plus qui se déroulera en partie sur le circuit Nevers-Manicourt en novembre, qui est l'événement entre guillemets phare de notre société, donc qui sera support aussi des championnats de Bourgogne de marathon cette année-là, et on va essayer de l'organiser du mieux possible pour espérer un jour avoir les championnats de France sur notre épreuve. Ça serait super pour nous évidemment, mais pour les coureurs locaux et évidemment pour le territoire.
Au niveau des Jeux Olympiques, est-ce que tu penses que la French Run a une carte à jouer sur l'organisation, sur la participation pour équiper peut-être quelques athlètes ? Quel est ton regard sur cet événement international qui se prépare dans notre pays ? Est-ce que tu vois quelque chose du côté de Nevers ?
Alors, évidemment, c'est génial qu'on ait les Jeux Olympiques en France. Ça, c'est super, ça va créer des vocations, des infrastructures sportives, donner un gros coup de projecteur, même pour les jeunes et tout, c'est vraiment. Et puis voilà, les valeurs de l'olympisme, je pense que c'est exceptionnel que ça se déroule en France et à Paris. Après, ça serait présomptueux de dire que la French Run a un rôle à jouer sur cette organisation-là. Objectivement, je pense que non. Si à notre humble niveau, on peut équiper des athlètes qui peuvent être dans le besoin ou etc., on le fera avec grand plaisir. Nous, on est une petite structure, donc le but, ça va être d'aider à notre humble niveau. Et puis, pourquoi pas de contribuer par ricochet ici en continuant à faire courir les gens, aussi à les faire marcher et à continuer dans cet esprit-là d'activité physique générale. Et puis, pourquoi pas, avec notre territoire, évidemment, être un acteur, alors peut-être pas majeur, mais pour que les gens puissent aussi aller voir ces Jeux Olympiques-là et encourager, évidemment, nos athlètes français.
Donc, on verra peut-être sur le marathon 2024, celui ouvert de façon populaire ou pas ? Non, c'est le marathon.
C'est pas l'heure du jour. Superbe initiative de la part de l'organisation de Paris qui essaye vraiment de démocratiser l'organisation des Jeux Olympiques. Et je trouve ça super, hein, vraiment, de rendre un petit peu, de donner un petit peu cette touche de rêve aussi pour le sportif entre guillemets lambda. Je trouve ça génial et même si on n'est pas coureur, dans tous les cas on sera de l'autre côté de la barrière pour encourager et puis participer à cette fête, puisque voilà, je pense que de notre vivant en tout cas des Jeux Olympiques en France, ça sera qu'une seule fois, donc il faudra en profiter.
Eh bien Antoine, moi je te remercie pour ta gentillesse, ta disponibilité, puisqu'on s'est vu sur le Gouas, donc à Noirmoutier. Et merci d'avoir trouvé un petit créneau dans ton agenda multicasquette, hein, on l'a vu à travers cet épisode. Donc au plaisir peut-être de venir à Nevers pour découvrir le magasin.
Merci beaucoup Sébastien, à toi. Évidemment, tu seras le bienvenu à Nevers au magasin pour qu'on te fasse découvrir la boutique, mais aussi notre ville, puisqu'on y est très attaché ici. Et puis voilà, il y a tous tes auditeurs et auditrices hein, à côté de mes pompes. Ça sera entre guillemets le nom de code pour celle ou celui qui se présentera dans la boutique. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je me souviens de cette photo qu'on avait prise près d'une rame de métro.
Exactement, à Paris, après les 20 kilomètres.
La mémoire est bonne, qui était sur notre gauche et voilà, il y avait des brasseries sur la droite. J'ai une très bonne mémoire sur ces choses-là. Et on s'est revu au Gouas, donc voilà, jamais 203. Donc peut-être qu'évidemment, la prochaine fois, ça sera à 9h. En tout cas, merci Sébastien. Félicitations pour ton travail. Et c'est aussi grâce à des personnes comme toi que la communauté running se développe et puis où tout le monde peut y trouver son compte et continuer sa passion.
Eh bien, merci Antoine. Et pour les auditeurs, donc vous pouvez aller du côté de Nevers, donc au magasin La French Run d'Antoine, le mot de code à côté de mes pompes. Vous l'avez retenu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous.
J'ai
J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram, laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.